France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Sacha Mattei, Anouk Millot et Loïc Antoine. À la réalisation Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. Un mois après la conférence d'Alger sur les crimes du colonialisme, Culture Monde s'intéresse cette semaine aux demandes de réparation exprimées par les pays africains et caraïbéens. Mardi, nous parlerons des descendants des peuples Herero et Nama en Namibie, encore inaudibles malgré la reconnaissance du génocide. Mercredi, il sera question du Niger qui entend réécrire son histoire et faire payer la France pour les crimes commis depuis la fin du 19e siècle. Jeudi, nous évoquerons le long combat de la Jamaïque et de ses voisins auprès du Royaume-Uni sur la question de l'esclavage. Et on commence ce matin avec l'Algérie, une loi pour se faire justice.
Je ne vous demande pas de vous repentir pour ce qu'ont fait vos aînés, mais au moins, il faut reconnaître mon martyr. Je ne vous demande pas des indemnités sous forme d'argent, je veux une indemnité morale, et il faut reconnaître ce qui s'est passé.
Nous avons la volonté politique de condamner la colonisation française pour les crimes indescriptibles qu'elle a commis contre le peuple algérien pendant l'occupation française de l'Algérie et de dire à la France et à l'État français qu'ils doivent assumer la responsabilité des crimes commis par la France coloniale contre le peuple algérien.
Aujourd'hui, quand on parle de cette loi criminalisant la colonisation, c'est une première dans l'histoire. C'est sans précédent. Cela signifie que cette loi va avoir des répercussions importantes dans toute l'Afrique.
Ils étaient tous venus drapés d'une écharpe ou d'un drapeau aux couleurs de la nation. Et c'est debout, sous les cris et les applaudissements, que les députés algériens ont approuvé le 24 décembre la loi sur la criminalisation de la colonisation française. Usage délibéré de la force armée, des armes prohibées et interdites, des explosions nucléaires, des exécutions extrajudiciaires, des pillages, de la torture, de la ségrégation raciale, de la privation des droits politiques. La loi dresse un inventaire qui donne la démesure des exactions commises lors de la conquête puis de l'occupation de l'Algérie par la France de 1830 à 1962. Voté à l'unanimité, le texte instaure aussi et pour la première fois une demande officielle de réparation à l'État français. Une initiative manifestement hostile a répliqué immédiatement le Quai d'Orsay. Il faut dire que les relations franco-algériennes ne cessent de se dégrader depuis la reconnaissance par le président Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alors le vote de cette loi marque-t-il un tournant dans le rapport des deux pays au passé colonial ? Quelle place l'histoire de la colonisation et de la libération occupe-t-elle dans la construction du récit national officiel ? Comment cette initiative résonne-t-elle avec le rôle historique d'Alger dans les luttes décoloniales à l'échelle mondiale ? On en discute avec nos invités. Akram Belkaïd, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes rédacteur en chef au Monde Diplomatique et à vos côtés, Adlène Mohamedi, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également, vous êtes chercheur en géographie politique, expert associé au CERI, le centre de recherche de Sciences Po, enseignant également à Paris 3 et à l'IRIS. Et pour commencer cette discussion, justement, je voudrais qu'on se replace dans cette dynamique internationale. Le 30 novembre et 1er décembre dernier se tenait à Alger une conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique à l'initiative de l'Union africaine. Et d'ailleurs, l'Union africaine a fait de la décennie 2026-2036 eh bien, la décennie des réparations. Akram Belkaïd, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dynamique mondiale de demande de réparation de la part des anciens pays colonisés? Et si oui, quel est le rôle de l'Algérie dans ce mouvement?
Alors, il y a bien une dynamique mondiale. Je dirais qu'elle est née même un peu avant. On a eu les prémices avec, au début de ce siècle, au début des années 2000, notamment après l'invasion américaine de l'Irak, qui, d'une certaine manière, sans en avoir la même structure, était une démarche impérialiste et néocoloniale. Et donc, on a commencé à voir des initiatives, des mouvements appelant à remettre cette question sur la table. Et effectivement, l'Union africaine est décidée à faire de cette décennie la décennie des réparations. Je dirais qu'il y a la convergence de plusieurs choses. Il y a le contexte mondial, on le voit aujourd'hui, il suffit juste de citer le cas du Venezuela, avec cette, ou même de ce qui se passe en Cisjordanie ou à Gaza, c'est-à-dire que la question coloniale est de nouveau posée, peut-être pas dans les mêmes termes qu'elle le fut au XIXe siècle, mais c'est le cas aujourd'hui. Et l'autre question, c'est aussi, il faut être assez... je dirais lucide aussi par rapport à ça, c'est que, eh bien, faute de mieux, faute de choses à proposer aux populations concernées, c'est-à-dire qu'on a eu la décennie du développement, on a eu la décennie des investissements, on a eu la décennie des mobilisations pour les sociétés civiles. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a dans un vide programmatique, la question des réparations est un sujet qui peut mobiliser et qui peut permettre à l'Union africaine de démontrer qu'elle a une action concrète sur le terrain diplomatique et celui des relations internationales.
Et pour le gouvernement algérien, se positionner sur les luttes décoloniales, c'est aussi une manière de raisonner avec sa propre histoire.
Nous nous sommes battus pendant 7 ans et demi contre l'impérialisme le plus obstiné qui ait jamais existé. Nous n'avons pas le droit de penser à mieux manger quand des gens campent en Angola, en Mozambique, en Afrique du Sud. Mais il y a une rançon à payer pour faire en sorte que notre solidarité soit effective. Eh bien, acceptons tous de mourir un peu ou tout à fait pour que l'unité africaine ne soit pas un mot creux.
L'ancien président algérien Ahmed Ben Bella qui s'exprimait ici à la tribune de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. C'était en 1963, Alain Mohamedi. La lutte anti-impérialiste et anticoloniale était au cœur de la politique étrangère algérienne post-indépendance. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
Alors, dans le discours, c'est encore le cas. Je rejoins ce que disait Akram, c'est-à-dire qu'il y a toujours une rhétorique anti-impérialiste, une rhétorique anti-colonialiste, parce qu'elle fait partie du récit national, parce que le pouvoir algérien tire sa légitimité de cet épisode historique, parce que la guerre de libération nationale est un moment fondateur de l'Algérie contemporaine, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en même temps, on est quand même obligé de distinguer le contexte actuel du contexte de l'époque. C'est-à-dire, le contexte de l'époque, c'est surtout le contexte de la guerre froide, qui permettait une espèce d'alternative dans le discours. Ça permettait à des gens comme Ben Bella de tenir ces discours. Ça permettait plus tard, d'ailleurs, à l'Algérie, en 67, de rompre, par exemple, avec les États, une puissance comme la puissance américaine, du fait de la guerre des six jours. Bon, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est absolument plus le cas. Le discours est toujours là. La rhétorique est encore là, mais le contexte international étant différent, on n'a plus les moyens, y compris d'ailleurs sur le plan international, de ce type de discours. Et le génocide à Gaza est un très bon exemple, puisqu'il n'a pas du tout, en rien, en réalité, remis en cause, par exemple, le rapprochement algéro-américain. Donc, ce que disait Ben Bella à l'époque, aujourd'hui, un dirigeant algérien ne pourrait pas le dire. D'ailleurs, on a bien vu que les dirigeants algériens ne se sont pas exprimés dans les termes qu'a utilisé Ben Bella après l'enlèvement de Maduro au Venezuela. Donc on voit bien que aujourd'hui, le contexte international ne permet plus d'aller aussi loin. Alors, il permet encore, bien sûr, d'organiser des sommets, il permet encore d'adopter des lois, comme on le verra plus tard, mais il ne permet pas de tenir tête aux puissances comme on le faisait à l'époque.
Alors, cette loi, venons-y, justement, c'était le 24 décembre, c'est tout récent. L'Assemblée nationale adoptait donc cette loi intitulée « Loi sur la criminalisation de la colonisation française ». Akram Belkaïd, peut-être une question naïve, mais comment expliquer que l'État algérien n'ait jamais formulé avant cette loi, dans un cadre législatif, une demande de réparation officielle depuis 1962.
Je fais écho à la première archive que vous avez diffusée et on entend bien quelqu'un dire il ne s'agit pas de demander des réparations matérielles, il suffit d'avoir une réparation morale. Donc cette idée-là, elle a toujours été prégnante au sein de la classe politique algérienne, de la société algérienne, c'est-à-dire que en fait l'indépendance constituait la réparation première et suprême. C'était l'histoire était terminée, mais il faut bien dire aussi que de manière récurrente, il y a eu des tentatives de demander à la France des réparations. Il y avait des initiatives qui partaient souvent de l'aile dure du FLN, du parti FLN, qui est devenu un parti unique après l'indépendance. Et souvent, ça a été tempéré par le pouvoir en place, qui, lui, voulait un autre type de relation avec la France. C'est-à-dire que la crise actuelle entre l'Algérie et la France, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des bons moments, comme on peut dire. Et donc, il y a eu des relations assez imbriquées, qui faisaient que, au niveau du pouvoir algérien, on n'avait pas trop envie de mettre cette question sur la table. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque l'Algérie connaît une phase démocratique, une ouverture, ce qu'on appelait le printemps algérien de la fin des années 80, un premier ministre à l'époque, qui était le premier ministre réformateur, Mouloud Hamrouch, avait proposé, par exemple, que l'on enlève de l'hymne national le couplet qui mettait la France en accusation. Il disait, ça y est, on est indépendant, on n'a plus besoin d'avoir à chanter ça. Il y a eu des polémiques, il y a eu des gens qui ont pris parti, mais ça dénote quel était l'état d'esprit des autorités algériennes qui préféraient concentrer leurs efforts diplomatiques et la discussion avec la France sur la question d'un traité d'amitié. Alors c'était un thème très vague, mais qui devait consacrer le départ de la mise en place structurée les relations bilatérales. Il n'empêche que à partir des années 2000, lorsqu'on voit qu'en France la question colonial revient avec le fameux projet de loi vantant les mérites et les bienfaits de la colonisation, petit à petit, on a commencé à entendre de plus en plus de voix au sein de l'établissement politique algérien pour réclamer justement ces réparations et pour réclamer que la France s'excuse. D'une certaine manière, et pour un peu caricaturer, je dirais qu'à force de dire « on ne s'excusera pas », nombre d'hommes politiques français ont finalement provoqué d'une certaine manière une réaction algérienne qui dit puisque c'est comme ça, vous devez vous excuser.
Vous disiez que les demandes de réparation émanaient au départ de la frange de l'aile dure du FLN. On a vu le 24 décembre que la loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée, Adeline Mohamedi. Ça veut dire qu'il y a un consensus politique sur ce sujet désormais?
Sur un tel sujet, il y a un consensus politique et un consensus national. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la population, il n'y a pas de voix divergente sur le sujet, bien sûr. C'est-à-dire que la question, elle se pose en France, en fait. C'est en France que le sujet divise. En Algérie, c'est pas un sujet qui divise, a priori. En Algérie, tout le monde est d'accord sur le sujet. Et la réparation, en l'occurrence, c'est une réparation avant tout symbolique, bien sûr. On n'a pas chiffré la question de la réparation. Mais la loi dit quelque chose, effectivement, de l'évolution du paysage politique algérien, puisque on s'inscrit quand même dans un contexte contre-révolutionnaire, post-Hirak, c'est-à-dire post-soulèvement populaire de 2019, où on a une classe politique qui se cherche quand même de nouvelles sources de légitimité. Il faut savoir que cette Assemblée nationale n'a pas de légitimité démocratique réelle. Il faut quand même aussi avoir l'honnêteté de le rappeler. Donc forcément, la légitimité, on va la chercher ailleurs, on va la chercher dans l'histoire, et de préférence dans une histoire qui fait consensus. Où là, il n'y a pas de division possible, puisqu'en Algérie, personne ne va dire le contraire sur la colonisation. C'est un crime, et il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut aussi rappeler que ça permet à des partis politiques largement démonétisés ces dernières années de retrouver une espèce de semblant d'existence, parce que la population ne connaît plus, en fait, ces partis politiques. Elle ne connaît plus ces dirigeants politiques. Elle ne connaît plus ces députés. Donc elle ne connaît pas cette Assemblée nationale. Il y a quelques années, il n'y avait pas non plus de légitimité démocratique, mais on va dire que les partis politiques avaient des dirigeants que les gens connaissaient à peu près. Aujourd'hui, on a un gouvernement et une Assemblée nationale qui ne sont pas connus du peuple. Alors ça fait partie, effectivement, ce type de procédé aide à les faire connaître, à faire parler d'eux, et encore une fois, la légitimité historique sert de substitut presque naturel à la à la légitimité démocratique.
Il y a cette dimension politique qui existe, peut-être même politicienne, pourrait-on dire, à vous écouter. Avant d'y venir un peu plus en détail, Akram Belkaïd, juste encore sur cette loi et le fait de passer par vraiment l'outil législatif, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent, quel est l'intérêt finalement de fixer dans le marbre, de fixer dans la loi, à la fois l'inventaire des crimes, j'en ai donné un aperçu en introduction, mais aussi encore une fois cette demande de réparation. Est-ce que cette loi peut être, va être suivie d'effets?
Alors, il y a un débat juridique sur la question. Nombre d'historiens, notamment algériens, se sont exprimés sur ce point en expliquant que de toutes les façons, ce ne sera pas une loi de type contraignant sur le plan international. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le Parlement algérien vote une loi qui n'est toujours pas entérinée d'ailleurs par la Chambre haute et que le gouvernement n'a pas encore promulgué, ce qui donne peut-être un peu de temps dans les négociations. Ce n'est pas parce que ça va être promulgué que ce sera contraignant, mais l'Algérie pourra brandir cet outil juridique, cette loi, d'abord pour faire, je dirais, créer un précédent, pour ouvrir la voie, pour inspirer, et ça a été dit par plusieurs hommes politiques algériens, d'autres pays, hein, puisque vous allez consacrer plusieurs sujets sur cette question-là, donc d'autres pays africains pourraient donc s'inspirer de la démarche algérienne. Donc là, en ce sens, on peut considérer que le gouvernement algérien entend jouer à son pays le rôle de pionnier. Et donc, on formalise de manière juridique, symbolique, théâtrale même, puisque ça a été voté à l'unanimité, dans une espèce de joie intense des députés. Et donc on formalise ce qui est l'outil de base qui servira à graver dans le marbre le fait que l'Algérie réclame que la colonisation soit mise hors la loi, en tout cas que la période coloniale soit condamnée. Et dans les différents types d'interprétations, et ce qui peut poser problème en France, c'est-à-dire qu'il faut bien rappeler, c'est qu'en tous les cas, pour le moment, quand on lit bien la loi, les déclarations, ce n'est pas une mise en accusation de la France actuelle. Le texte ne dit pas aux Français « vous êtes responsable de la colonisation ». Ce que les Algériens demandent, c'est la condamnation de la période coloniale. Et là, on touche du doigt le différent franco-algérien, comme Adnan l'a dit. C'est-à-dire qu'on est, les Algériens et les Français ne sont pas d'accord sur un point fondamental, qui est que, pour les Algériens, la colonisation, c'était le mal absolu. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Or, en France, on a plusieurs types d'avis. On a cet avis qui consiste à criminaliser la colonisation. Mais on a aussi cet avis qu'on retrouve, y compris à gauche, qui consiste à dire, finalement, la colonisation, il n'y avait pas que du mauvais. Certes, les choses ont un peu mal tourné par certains moments, mais dans l'ensemble, il faut se garder de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, c'est ça qui, d'une certaine manière, cette loi relance et met la lumière sur cet antagonisme qui, à mon sens, est un antagonisme fondamental entre les deux pays. Entre les deux populations, même.
Dire que la colonisation a été un crime, c'est désormais inscrit dans la loi côté Algérie. Il y a aussi des parties très précises sur ces questions des réparations. Il y a des demandes de restitution de dépouilles, d'archives, d'objets. Il y a aussi une demande très précise sur le nettoyage des régions affectées par les essais nucléaires. Est-ce qu'il y a aussi des dédommagements financiers qui sont évoqués? Et si oui, comment aujourd'hui peut-on fixer, les députés se sont-ils penchés concrètement sur le fait de fixer un montant ou une forme très concrète de réparation?
Non, parce que, écoutez, on entendait tout à l'heure la voix du président de la République algérienne qui disait justement qu'il excluait lui-même la question du dédommagement financier. Il le disait lui-même dans l'un des passages que vous avez diffusés. Il parlait finalement d'excuses. Il parle de reconnaissance politique. La loi ne chiffre pas, à ma connaissance, et c'est très 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 difficile de chiffrer. Parmi les éléments concrets qu'on retrouve dans la loi, il y a la volonté, par exemple, d'avoir une carte précise des essais nucléaires. Bon, ça, c'est une question précise, opérationnelle, qui est de l'ordre du faisable. Parce que les essais nucléaires, qui ont commencé avant l'indépendance algérienne, se sont poursuivis en vertu des clauses secrètes des accords d'Évian et se sont poursuivis jusqu'en 1966. Donc forcément, ça a eu des conséquences sur les populations locales, puisque les essais nucléaires ont eu lieu à proximité de populations civiles. Et forcément, oui, là, en l'occurrence, je pense que la question, elle se pose de façon assez concrète. Ensuite, pour ce qui est de dédommagement concret, matériel, bon, je ne connais pas de chiffres. Hein. Ironiquement, ces dernières années, ceux qui ont osé chiffrer la question des réparations, ce sont quand même des lobbies de rapatriés en France qui ont réclamé en 2006 un dédommagement à l'État algérien, et qui, à l'époque, l'avait chiffré, dans mon souvenir, à 12 milliards. Et c'était assez cocasse et ça a suscité quelques réactions à l'époque. Mais côté algérien, on ne parle pas de réparation matérielle, on parle surtout, effectivement, d'excuses officielles, parce que, dans la loi, on parle de la responsabilité juridique de l'État français dans ce crime qu'est la colonisation.
Je suis né avec un handicap l'année de l'explosion atomique d'Amoudia. Jusqu'à 7 ou 8 ans, je ne pouvais me déplacer qu'à quatre pattes. J'ai dû faire des années de rééducation pour marcher.
J'ai 18 ans et vous pouvez voir dans quel état je suis. Je suis tout éclopé. Ma jambe me fait mal nuit et jour. Je ne sais pas ce que j'ai. Pourtant, je suis allé à l'hôpital dans plusieurs villes, mais ça n'a rien donné. C'est un mal qui n'a pas de remède.
Nous sommes tombés dans l'oubli. Nous sommes abandonnés à notre sort. Nous voulons qu'aujourd'hui, nos dirigeants se lèvent vraiment et réclament justice à la France, qui a commis le plus grand des crimes.
Témoignage tiré du reportage de France 24. Reagan, les irradiés du Sahara, signé Sundus Brahimi et Georges Yazbek, était diffusé en 2021. 13 essais, vous le rappeliez, Adeline Mohamedi, 13 essais nucléaires ont été effectués par la France dans le Sahara algérien entre 60 et 66. Sur cette est-ce que c'est sur cette question précise du nucléaire, des essais nucléaires et de leurs conséquences, qu'on a là peut-être les demandes de réparation les plus concrètes, avec peut-être aussi des questions d'indemnité, de nettoyage? On en est où d'ailleurs à ce niveau-là, Akram Belkaïd?
C'est un sujet qui a fait partie pendant longtemps des discussions, mais qui est en panne. Et effectivement, c'est là où concrètement on peut avoir des familles algériennes qui peuvent elles-mêmes éventuellement, en se basant sur la loi qui va être votée, demander des indemnisations et des réparations. Moi, ça me fait penser à un autre dossier qui est comparable, qui a été celui des victimes des mines. Vous savez que les deux frontières entre l'Algérie et le Maroc et l'Algérie et la Tunisie ont été minées pendant la guerre d'Algérie pour empêcher les infiltrations, les incursions de troupes de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. Et ces mines ont fait des victimes, continuent aujourd'hui encore à faire des victimes. Et pendant très longtemps, l'Algérie a réclamé des schémas d'emplacement des champs de mines, sachant que des mines, ça peut voyager à cause des pluies, ça peut bouger, etc. Et donc là aussi, il y a eu des initiatives dans les années 90, deux familles qui se sont regroupées en collectif et qui ont essayé de faire entendre leur voix en disant « mais on veut être indemnisé ». Et c'est ce que ça fait écho à ce que je vous disais en début d'émission, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le gouvernement algérien n'a pas été très dynamique sur cette question-là. Il n'a pas il n'en a pas fait une affaire essentielle. Il a d'abord... C'est très intéressant d'entendre ces témoignages, parce que ça prouve aussi que ces pauvres gens n'ont pas été pris aussi en charge par leur propre État, parce qu'à la limite, que les Français n'aient pas envie de payer tout de suite, ça c'est une affaire, mais l'Algérie aurait pu se pencher de manière un peu plus sérieuse et un peu plus, je dirais, dynamique sur la question du nettoyage des aires radioactives et de la prise en charge des familles des victimes. Mais oui, vous avez raison, il y a des collectifs qui se montent, il y a quelque chose, c'est encore embryonnaire, mais il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser, de se concrétiser autour de la question des essais nucléaires, sachant qu'en France, il y a aussi des gens qui ont notamment d'anciens membres de l'armée française, donc qui ont eux aussi demandé, ou en tout cas qui sont dans des démarches et de qui revendiquent des réparations, dans la mesure où ces essais-là n'ont pas toujours visiblement été menés avec toutes les conditions de sécurité pour les personnels militaires et civils qui assistaient à ces essais. Donc d'une certaine manière, il y a aussi un rattrapage de mémoire qui est en train de se faire aussi en France.
Alors il y a ceux qui n'ont jamais très peu pu faire entendre leur voix, ces familles que vous évoquez du côté des essais nucléaires ou de ceux qui ont été victimes des mines antipersonnelles. De l'autre, il y a, on entendait quelques échos en Algérie, et, notamment dans un article du 20 décembre, Le Matin d'Algérie, qui pointait une surenchère mémorielle à laquelle se seraient livrés les députés avec ce projet de loi. Donc, entre ces deux échos-là, on a l'impression, Adeline Mohamedi, enfin, la question est-ce que la question mémorielle est aujourd'hui une priorité pour les Algériens? Vous disiez tout à l'heure, il y a consensus, tout le monde est d'accord pour cette demande-là, mais à quel point c'est une priorité politique?
Alors, C'est intéressant parce que c'est un sujet qui certes fait l'unanimité, mais ce type d'action n'émane pas de revendications populaires. On va pas se mentir, c'est-à-dire que au moment par exemple du Hirak, du soulèvement populaire algérien en 2019, la question de la colonisation n'était pas au cœur des débats. C'est-à-dire que la vérité historique est une question importante quand même pour les Algériens. Surtout puisqu'on a accès quand même aux médias français, quand on voit que de l'autre côté, il y a de plus en plus de déni par exemple, hein, y compris d'hommes politiques qui se disent de gauche ou centristes, etc. Mais côté algérien, bon, la population n'est pas obsédée par cette question-là. Enfin, vous avez un pouvoir en place qui utilise cette question, la question mémorielle, dans le cadre d'une consolidation d'un récit national, encore une fois, parce que, comme un substitut quand même pratique qui permet de pallier l'absence de légitimité démocratique. L'historienne Karima Dirach, qui vous parlerait de ça beaucoup mieux que moi, parce qu'elle a travaillé sur le sujet, et elle explique par exemple très bien comment au lendemain du soulèvement populaire, comment à partir de 2020, on a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place par le pouvoir algérien, justement pour gérer cette question mémorielle. La mise en place d'une chaîne de télévision nouvelle, Dhakira, qui veut dire la mémoire, la mise en place d'une instance destinée à encadrer le discours sur la mémoire et sur l'histoire, une espèce d'autorité sur ce point, et l'institutionnalisation de la journée du 8 mai en référence au massacre du 8 mai 1945 à Guelma, Sétif et Kharata. Donc, ce sujet-là est porté par le haut. Il fait consensus, bien sûr, auprès de la population, mais il n'émane pas, au final, de revendications populaires. Bon, les revendications concernent d'autres sujets. Il y a quand même en parlé tout à l'heure. On a d'autres préoccupations. Il y a bien sûr la question démocratique, il y a la question de la justice sociale, il y a la question aujourd'hui, bien sûr, par exemple, il y a des grèves aujourd'hui, il y a eu des grèves récemment des transporteurs en Algérie. Donc il y a des questions sociales, et en même temps, il y a ce discours, effectivement, qui sert à cimenter et en même temps à exclure. Parce qu'effectivement, dans cette loi, il y a aussi un volet punitif, hein, c'est-à-dire tout discours négationniste est puni. Bien sûr. Et on a toujours peur ensuite de l'interprétation de la loi. C'est-à-dire toute remise en cause de tel ou tel discours peut être punie. Donc, bien sûr, il y a on se sert d'un consensus national à des fins politiques, mais on l'a fait aussi côté français. Ça veut dire que ça s'est fait dans un cadre aussi franco-algérien. Il ne faut pas oublier que la question mémorielle, elle a été largement utilisée par le président Macron ici. Lui-même a parlé d'ailleurs quand il était candidat de crime contre l'humanité. Donc ça ne devrait pas l'étonner aujourd'hui que l'Assemblée nationale utilise des termes analogues. Lui-même a voulu faire de la réconciliation des mémoires un sujet central au lendemain justement du soulèvement 2019, alors qu'il savait très bien que ce n'était pas une demande prioritaire pour les Algériens. Donc en fait, quand ça les a rangés, les deux pouvoirs en place ont utilisé la question mémorielle pour se rapprocher, et on a essayé de le faire avec la question mémorielle, le rapprochement franco-algérien, et aujourd'hui il se trouve que la question mémorielle est précisément l'une des questions qui divise. Elle divise parce que côté algérien, on répond à la surenchère aussi qu'on a côté français, aussi parce que côté français, on a aujourd'hui des hommes politiques, des anciens premiers ministres, qui peuvent dire ostensiblement que la colonisation n'a pas été un crime, par exemple.
Et on voit, quelques jours après l'adoption de la loi, que cette initiative a été qualifiée de, je cite, « manifestement hostile du côté des autorités françaises », Akram Belkaïd. n'y a pas eu d'ambiguïté, c'est-à-dire au sens où les autorités françaises ont choisi de le prendre directement comme un message, une initiative qui était diplomatique.
Absolument. On est dans un contexte, il faut le rappeler, mais je pense que ça tout le monde le sait, qu'on est dans un contexte de haute tension entre l'Algérie et la France depuis plusieurs mois. Votre émission a consacré plusieurs chapitres à ce sujet, c'est-à-dire que le discours, les relations franco-algériennes ne sont pas bonnes actuellement. Il y a des tensions sur tous les niveaux, il y a des reproches qui fusent de part et d'autre, il y a une instrumentalisation manifeste par le pouvoir algérien de cette question, mais il y a aussi une instrumentalisation électoraliste en France aussi, puisqu'on beaucoup considèrent que taper sur l'Algérie et les Algériens peut être rentable sur le plan électoral à quelques mois de la prochaine élection présidentielle et des prochaines législatives. Donc effectivement, la réaction du Quai d'Orsay, c'est une espèce de réaction de fermeté qui dit bon ben on va pas se laisser faire non plus. Et donc de toutes les façons, on sent bien qu'on est dans une spirale de surenchère entre les deux parties. Il y a cette question mémorielle qui a toujours été sur la table. Il faut le dire, a toujours été sur la table. Il y a eu des gestes français. Je me souviens d'un ambassadeur français en Algérie qui a reconnu le caractère, je dirais, de crime de guerre et de crime contre l'humanité des massacres de Sétif et Kerata et Guelma en 1945. Ça a été un moment assez important dans l'histoire commune, mais on sent bien qu'il y a des ressacs, qu'il y a des va-et-vient. Et comme le dit Adlan très bien, c'est-à-dire que c'est instrumentalisé par les deux gouvernements. Je pense en tout cas que côté algérien, l'attente, elle est aussi ailleurs. C'est-à-dire que s'il devait y avoir, un passif franco-algérien à aborder dans l'aspect contemporain, dans l'aspect actuel des choses, ça concernerait absolument pas la question mémorielle, même si, encore une fois, certaines familles qui ont été touchées par la guerre d'Algérie. Je pense notamment aux familles des disparus qui aimeraient bien savoir ce qui s'est vraiment passé, qui vivent avec l'histoire de cette personne ou de ces personnes qui ont été kidnappées et qui ont disparu, qui aimeraient bien savoir. Mais si vous discutez avec la population, si on voit ce que disent les gens, le passif franco-algérien, pour eux, c'est plutôt des choses immédiates et actuelles. Je pense notamment à la question des visas, par exemple. Ça, c'est... Je ne dirais pas que c'est plus important que la question mémorielle, mais en tout cas, c'est plus dans le champ des discussions que de savoir par rapport à la période coloniale, parce que les Algériens, de toutes les façons, vivent dans un pays indépendant. Et l'affaire, elle est réglée, elle est classée, c'est terminé. L'idée que la France pourrait revenir, elle est souvent agitée, qu'elle aimerait revenir d'une manière ou d'une autre, de manière néocoloniale, etc. et tout. Ça, c'est un argument qu'on a toujours entendu, auquel certains sont assez sensibles. Mais dans la réalité, leur urgence, elle est au quotidien. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, même si on n'a pas eu la même relation entre l'Algérie et la France que l'Algérie et l'Italie, que les Italiens ont très bien compris. Les Italiens ont une approche aujourd'hui très pragmatique à destination de l'Algérie et consiste à essayer de bâtir des ponts vers l'avenir, même si, paradoxalement, on a affaire à un gouvernement néo-fasciste, en tout cas d'extrême droite en Italie, mais qui est accueilli à bras ouverts à Alger, en tous les cas.
Vous expliquez à quel point la question mémorielle est au cœur des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, qu'elle est aujourd'hui un facteur de division, et ce n'a pas toujours été le cas. Est-ce que, paradoxalement, le fait de tenter de poser des bases, de dire les choses, de nommer les crimes, d'en faire la liste, même si aujourd'hui, d'un point de vue conjoncturel, elle s'inscrit dans une période de tension, est-ce que sur le long terme, c'est tout de même une initiative, une loi qui pourrait à terme poser les bases d'une relation nouvelle, et je fais le lien en ça aussi avec les travaux d'une délégation de parlementaires français qui s'est rendue le 8 mai dernier en Algérie pour commémorer les massacres de Sétif, Guelma et Kerata. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi en parallèle des dynamiques qui visent, elles, à dire « voilà ce qui s'est passé, nommons-les, travaillons dessus » pour peut-être repartir sur de nouvelles bases? Adlan Mohammadi.
Écoutez, je ne suis pas sûr que la relation diplomatique franco-algérienne dépende de telles initiatives. Je pense que les priorités sont ailleurs, Aklam les a rappelées. Bien sûr, il y en a d'autres. Par exemple, Laurent Nunez, dès son arrivée, a expliqué l'importance des questions de sécurité. Lui, il ne veut pas finalement d'une rupture de dialogue parce qu'il est justement focalisé sur les questions de sécurité et il a besoin d'un dialogue entre les deux gouvernements sur ce point. Moi, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, en tant que chercheur, c'est quand même la vérité historique. Et pour moi, l'histoire, plutôt que la mémoire, ça se fait quand même à distance des États, ça se fait à distance des pouvoirs en place, ça se fait à distance des discours officiels. Ça, c'est un point déjà très important. Ensuite, la question mémorielle, la mettre systématiquement au cœur de la relation franco-algérienne, c'est toujours problématique parce que c'est toujours instrumentalisé, c'est toujours utilisé à des fins politiciennes en fait, soit à des fins de manipulation, soit à des fins purement électoralistes. Par exemple, pourquoi on peut se demander pourquoi un homme politique comme Édouard Philippe se sent obligé par exemple de se focaliser sur un jour sur les accords de 68, le lendemain sur la remise en cause des crimes de la colonisation, parce que je pense qu'il a une certaine idée de son potentiel électoral. Donc là on a un problème qui se pose quand même dans des termes assez différents. Cela dit, la question coloniale quand même demeure importante aujourd'hui. C'est-à-dire que là où je ne dirais pas que tout cela tous ces débats n'ont pas grand intérêt, c'est parce qu'on ne peut pas nier non plus qu'on vit dans un contexte international où la question coloniale demeure très importante. On l'a vu au Proche-Orient, on le voit avec les appétits coloniaux, parce qu'on peut pas, on peut les qualifier ainsi, des États-Unis. Ce sont quand même des appétits d'ordre purement colonial. Et même dans le dialogue franco-algérien, il y a une dimension coloniale. Parce que, en fait, les mots, les termes qui ont été utilisés par certains hommes politiques français à l'égard de l'Algérie, par exemple, quand M. Retailleau parle d'humiliation simplement parce qu'un ressortissant algérien a été renvoyé, on voit bien la différence quand même de discours quand il s'agit des Américains, là où, pour le coup, l'humiliation à l'égard de la France est ostentatoire. Là où on a un président américain qui humilie en public sur une estrade le président français. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même pour l'observateur, une dimension coloniale dans ce traitement des interlocuteurs. Et effectivement, pour beaucoup d'Algériens, les excès de certains hommes politiques français font écho à un passé colonial.
Si l'émergence de la vérité doit se faire loin de la politique, est-ce que le journaliste et le chercheur que vous êtes ont un accès aujourd'hui satisfaisant aux sources, aux archives, aux personnes? Peut-être rapidement pour conclure, Akram Belkaïd.
Oui, rapidement, pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Adeline, je pense que l'une des erreurs majeures, il y en a beaucoup, mais l'une des erreurs majeures d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir cru que c'était aux politiques de décrire l'histoire. Et que, en essayant d'instrumentaliser cette question et en essayant de s'en emparer, comme si on pouvait se mettre d'accord autour d'un fait historique qui, de toutes les façons, opposera les uns et les autres et continuera de les opposer d'une certaine manière. Sur les sources, c'est bien plus facile aujourd'hui qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. On a plus accès. Malheureusement, beaucoup de témoins ont disparu. J'aimerais rapidement rendre hommage à la mémoire de l'historien algérien Mohamed Harbi, qui est décédé récemment, et il a été un des pionniers pour justement démystifier le roman national algérien officiel. Mais c'est plus facile aujourd'hui. Il y a des archives. Alors, tout n'est pas accessible. Je crois que les dossiers individuels ne le sont pas encore, et on comprend pourquoi. Mais en tous les cas, il est plus facile pour les historiens de travailler, sauf pour les historiens algériens qui souhaitent se rendre en France et qui ont des soucis de visa. Mais l'inverse est vrai aussi.
Vous écoutez Culture Monde, premier épisode de notre série Réparation coloniale, une quête mondiale. Aujourd'hui, l'Algérie, où les parlementaires veulent inscrire dans la loi les demandes de réparation. Et tout de suite après la musique, on évoque le rôle de l'État dans le cinéma mémoriel.
سافر تروح تعيا وتقول ليه شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتقول ليه شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي We'll be right back.
الجبال العامرين والبر الخليج شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجريك ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدريك
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال من مول عباد الغافلين قبلك وقبليك رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال من مول عباد الغافلين قبلك وقبليك
Ya Raya, toi qui t'en vas, un des grands succès du chanteur de Chaabi, Daman El Arachi. Et si la musique algérienne est connue dans le monde entier, le cinéma a lui aussi contribué au rayonnement du pays, notamment lorsqu'il s'est emparé de la guerre d'indépendance.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Le cinéma algérien est né d'un élan révolutionnaire, puis il s'est développé grâce au financement de l'État. Il s'est développé grâce à une génération de réalisateurs qui a tourné des films inspirés de nos archives et de notre histoire. Aujourd'hui, nous prolongeons le message porté par la révolution victorieuse. Merci à vous tous, acteurs du cinéma algérien.
C'était en janvier 2025, à l'occasion des Assises du cinéma algérien, le président Abdelmajid Tebboune s'adressait aux professionnels du secteur pour leur rappeler les origines révolutionnaires et anticoloniales du cinéma algérien. Et c'est conformément à cette tradition que l'État a annoncé en décembre sa participation à un projet de biopic sur l'émir Abdelkader, héros de la résistance contre la conquête de l'Algérie par l'armée française. Bonjour Salima Tenfish.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci. Vous êtes maîtresse de conférence en études cinématographique à l'université Paris-Sorbonne, autrice de Renouveau du cinéma algérien, de la fin de la guerre civile au Hirak. C'est paru aux éditions Classique Garnier cette année. L'émir Abdelkader était un chef militaire qui mena la résistance contre l'invasion française. Comment se fait-il qu'aucun biopic ne lui était encore consacré justement par le cinéma algérien ?
Oui, alors plusieurs projets de films ont été préparés dès les années 70, donc au moment des grandes heures du cinéma national algérien. Et comme un projet, si vous voulez, qui a finalement jamais vu le jour, chaque gouvernement a replacé sur la table le projet de film. Et donc il y a eu d'abord un premier projet dans les années 70-80, puis lorsque Abdelaziz Bouteflika accède au pouvoir en 99, très vite, il projette de rendre hommage, de glorifier la mémoire de cette figure de résistance à la conquête par un biopic à échelle internationale. Et donc le ministère de la Culture est chargé de composer une équipe de professionnels. Alors on peut citer notamment Oliver Stone qui est nommé comme producteur exécutif ou encore Charles Burnett qui est présenté comme réalisateur, donc un réalisateur afro-américain. Et le projet ne voit pas le jour sous Bouteflika et au moment où Abdelmajid Tebboune lui-même prend le pouvoir après le Hirak, il relance ce projet qui est censé produire un nouveau biopic de glorification d'une figure centrale du récit national algérien.
Vous dites que le projet n'a pas vu le jour, au-delà des dimensions conjoncturelles, peut-être de problèmes de financement. Est-ce qu'il y a aussi des questions relevant de qu'est-ce qu'on raconte sur une telle figure qui est si importante pour l'histoire de l'Algérie, avec une vie très dense qui se déroule en Algérie, en France, en Syrie. Est-ce qu'il y a aussi une difficulté à se mettre d'accord sur ce qu'on va raconter sur l'émir Abdelkader ?
Et oui, c'est tout l'enjeu, alors pas seulement sur l'émir Abdelkader, mais d'autres figures qui ont été occultées du récit officiel de la résistance à la colonisation et aussi de la guerre d'indépendance. Dans le cas de ce film sur l'émir Abdelkader, en tout cas de ce projet de film, si on en croit l'historien Amar Mohand Amer, dans un article qu'il avait donné pour le catalogue de l'exposition présentée par le MUCEM en 2022, qui était consacré à l'émir Abdelkader, l'historien expliquait qu'une des hypothèses de la non-réalisation de ce projet, le non-aboutissement de ce projet, était le fait que la figure de l'émir est trop complexe, puisque c'est un chef militaire, un chef politique, un savant soufi religieux, mais c'est aussi une personnalité historique qui a été le grand ennemi. Je crois que la formule consacrée pour le nommer, c'est le meilleur ennemi de la France, qui a ensuite capitulé, était obligé de capituler, et qui s'est retrouvé par une autre séquence de sa biographie à devenir une figure internationale lorsqu'il prend la défense des chrétiens à Damas contre l'attaque des Druzes. Et à ce moment-là, il reçoit la Légion d'honneur par la France et il peut être considéré par certains comme le grand ami de la France. Cette complexité de sa biographie peut expliquer le fait que l'émir résiste, si vous voulez, à l'assignation, en tout cas à la réduction, dans une ligne officielle qui serait embarrassée de certains aspects de la biographie de l'émir. Mais peut-être, enfin, ce qui est plus important, je dirais, à dire, c'est que ce projet de film, il s'inscrit dans une politique beaucoup plus globale de glorification de la résistance à la colonisation par le cinéma, qui commence à l'indépendance et qui va donner lieu à des grands films comme Chronique des années de Brest, La bataille d'Alger, L'aube des damnés dans les années 60-70. C'est le moment où le cinéma nationalisé algérien se fait connaître à l'échelle internationale et est porté par Houari Boumediene lui-même. Et lorsque Bouteflika prend le pouvoir et il se présente comme l'héritier de Boumediene, puis c'était son ministre des Affaires étrangères sous Boumediene, il se présente comme l'héritier et donc il va se relancer, une politique culturelle où le cinéma est utilisé comme un instrument de relégitimation du pouvoir algérien qui a été mis à mal par la guerre civile, puisqu'on n'a pas encore nommé cette séquence historique dans l'émission, mais si vous voulez, la période de la guerre d'indépendance qui fait l'unanimité au sein de la société algérienne peut être utilisée pour recouvrir d'une certaine manière les blessures, on pourra dire, ou en tout cas la véritable fracture de la société algérienne qui a fait voler en éclats le mythe national tel que Mohamed Harbi, qu'on a nommé ici, l'avait étudié, c'est-à-dire un mythe de nation totalement homogène, fédérée, non traversée par des conflits, non traversée par des classes.
Salima Tenfish, il faut préciser la nature du rôle de l'État dans le cinéma algérien, puisqu'il ne se contente pas de promouvoir le cinéma ou de l'aider. C'est vraiment un secteur d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment l'État s'est investi, comment tout cela est organisé, si j'ai bien compris à lire vos travaux universitaires? C'est vraiment quelque chose qui est porté par les ministères.
Ouais, très concrètement, depuis l'action au pouvoir de Bouteflika à la fin de la guerre civile et précisément, alors pas en 99 tout de suite mais à partir de 2003 au moment de cette manifestation culturelle d'ailleurs entre la France et l'Algérie qui s'appelle Jazaïre année de l'Algérie en France depuis lors, donc depuis 2003. Le gouvernement algérien organise des grandes manifestations culturelles de commémoration nationale, de célébration. Et c'est dans le cadre de ces grandes manifestations, donc Alger, capitale de la culture arabe, Tlemcen, capitale de la culture arabe, 50e anniversaire de la guerre d'indépendance et d'autres. Dans le cadre de ces grandes manifestations, l'État, la présidence même, c'est comme ça qu'il faut le dire, alloue des budgets spécifiques au cinéma, à la production, à la réalisation de ces biopics, donc de glorification nationale, qui s'ajoutent au budget du ministère de la Culture et à celui offert par le ministère des Moudjahidines, qui joue aussi, qui prend une part très importante dans la production de ce cinéma. Donc très concrètement, depuis Bouteflika, si vous voulez, il y a une relance de ce cinéma d'État tel qu'il avait été pensé et mené au moment de l'indépendance, où le cinéma était nationalisé. C'était un cinéma entièrement sous monopole public, des années 60, de l'indépendance, jusqu'en 84.
Plusieurs grands films reconnus internationalement ont été produits dans les années 60 et 70. Vous citiez La bataille d'Alger de Gilles Ponton-Corvo en 65, ou Chronique des années de Brest, qui a reçu la Palme d'Or en 1975 de Mohamed Lakhdar Hamida. Aujourd'hui, les films produits dans la dernière décennie, décennie. Quel succès rencontrent-ils en Algérie? Est-ce qu'ils sont populaires?
Bah alors ça, s'ils sont populaires, c'est très difficile de le dire. En tout cas, je m'engagerai pas là sur cette question puisque on n'a pas d'études de réception qui nous permet de l'établir scientifiquement. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que depuis 2003, on voit naître un cinéma de renouveau de la propagande, comme je l'ai dit, mais en parallèle, un cinéma indépendant qui, lui, a bien du mal à obtenir des financements de la part du ministère de la Culture, que j'ai nommé dans mon ouvrage que vous citiez tout à l'heure, le cinéma Aishin, le cinéma des vivants, qui lui essaye par la coproduction, en allant chercher des financements à l'étranger, notamment en France, de produire un cinéma davantage critique, ou du moins qui ne concerne pas la mémoire de la guerre d'indépendance.
Et vous parlez de cinéma de la désillusion, qui traite davantage de sujets comme le chômage, l'émigration, la restriction des libertés. Il est perçu comment, ce cinéma-là, par le pouvoir?
Ce cinéma, parce qu'il est critique, on entend beaucoup dire en salle, en situation de projection, qui donne une mauvaise image de l'Algérie par certains, comme si le cinéma avait vocation à donner telle ou telle bonne image du pays. Vous imaginez ce qu'on pourrait dire des productions américaines sur ce compte-là. Bon, et donc ce cinéma, on ne sait pas à quel point il est vu, que ce soit le cinéma de glorification ou celui que j'ai appelé des vivants, de la désillusion, indépendant. En revanche, il est très difficile pour les cinéastes et professionnels algériens d'avoir une pleine liberté d'expression, puisque la loi encadre, donc la relance de l'activité cinématographique s'est accompagnée d'un renforcement de la censure, ou du moins du contrôle de la liberté d'expression. C'est-à-dire que non seulement avec la charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005, il y a cet article 46 qui inquiète, on pourrait dire, nombre d'intellectuels, mais aussi de cinéastes, qui encadre les représentations, les mises en scène de la guerre civile, mais avec la loi de 2011, qui est une loi relative à la cinématographie, puis très récemment, en avril 2024, la nouvelle loi promulguée sous le gouvernement, enfin sous le régime de Tebboune, qui encadre encore les représentations de la guerre d'indépendance, spécifiquement, mais aussi de la guerre d'indépendance et de la religion. Donc de plus en plus de contraintes dans la liberté d'expression des cinéastes.
Adeline Mohamedi, vous iriez voir le biopic sur l'émir Abdelkader quand il sortira, si le projet voit le jour?
Alors, je ne sais pas du tout, mais par contre, juste pour réagir à ce qui vient d'être dit, je pense que la question, puisqu'on a parlé depuis tout à l'heure, on parle de réparation et de décolonisation, c'est quand même une question d'émancipation. Et pour ma génération et les générations suivantes, l'émancipation, elle concerne aussi l'Algérie post-indépendance. Et là, on a des motifs d'inquiétude parce que on a encore aujourd'hui des prisonniers politiques. Je pense notamment au jeune poète Mohamed Tajadid qui subit un harcèlement policier et judiciaire depuis quelques années. Et ça, effectivement, ça inquiète les artistes, les journalistes, bien sûr, parce qu'on a un paysage médiatique complètement verrouillé, mais aussi, bien sûr, les chercheurs. Et à peu près tout le monde.
J'en profite pour rappeler que le 3 décembre dernier, notre confrère, le journaliste sportif Christophe Glaise, a été condamné en appel à 7 ans de prison par la justice algérienne, alors qu'il effectuait son travail de journaliste. Nous espérons, avec son comité de soutien, sa libération et son retour. Merci beaucoup à tous les trois. Salima Tenfish, je renvoie vers votre ouvrage « Renouveau du cinéma algérien, de la fin de la guerre civile au Hirak ». C'est aux éditions Classique Garnier. Merci beaucoup à Kram Belkaid. Je renvoie vers vos articles qu'on peut lire dans Le Monde Diplomatique. Merci Adeline Mohamedi. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et Catherine, la colère monte en Inde après la suppression d'une garantie d'emploi rural.
Le gouvernement de Narendra Modi vient de détruire le dernier rempart contre la pauvreté pour les populations rurales, s'insurge l'opposition. Une bouée de sauvetage, selon le magazine indien Frontline, qui a aussi permis d'émanciper les femmes, ajoute le Guardian. 40% des bénéficiaires de l'ancienne garantie d'emploi rural appartiennent à des castes marginalisées, des femmes dalites que l'on appelait autrefois les intouchables. C'est donc pour demander le rétablissement de cette garantie, de cette loi emblématique du Parti du Congrès, Congrès, au pouvoir entre 2004 et 2014, que des membres de ce parti, aujourd'hui dans l'opposition, ont entamé hier une grève de la faim, annonce le quotidien The Hindu. Dans un pays où une grande partie de la population dépend du travail agricole saisonnier, rappelle la BBC, la loi Mahatma Gandhi sur la garantie d'emploi rural permettait à tout adulte vivant à la campagne de demander jusqu'à 100 jours de travail par an au salaire minimum légal. Sans réponse, au bout de 2 semaines, le gouvernement devait lui verser une allocation chômage, précise le Guardian, de quoi amortir les chocs économiques ou climatiques, souligne la BBC. L'an dernier, 265 millions de ménages ont ainsi bénéficié de ce programme, indique The Wire, avec pour principe que le travail, le salaire et la dignité ne sont pas des faveurs à distribuer, mais des droits à revendiquer. Le site d'information américain Mongabay donne l'exemple de Mandeshri Devi, une femme de 60 ans et ses 2 belles-filles qui travaillent comme journalières dans l'état du Bihar, dans le nord-est de l'Inde. Ses 2 fils sont maçons, toute la famille dépendait jusqu'à la fin 2025 du programme national de garantie de l'emploi rural. Même si elle travaillait à peine 30 à 40 jours par an, alors qu'elle avait droit à 100 jours, malgré tout, les 20 000 à 25 000 roupies de gagnés, environ 200 euros, représentaient un grand soulagement pour notre famille, explique Mandeshri à Mangabay. Grâce à ce dispositif encore, l'exploitation, la migration forcée pour raisons économiques ont reculé, les salaires ont augmenté, les conditions de travail se sont améliorées, affirme Rahul Gandhi, le chef de l'opposition, cité par The New Indian Express. C'est précisément ce levier que le gouvernement veut briser en multipliant les moyens de refuser du travail, ajoute ce fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'ancien Premier ministre en Inde.
Et cette garantie d'emploi rural était une épine dans le pied du gouvernement Modi.
Pour ses projets de privatisation, de transformation de l'économie, accuse le magazine indien Frontline. Pour Frontline encore, le gouvernement nationaliste hindou ne cherche ni plus ni moins qu'à supprimer le droit du travail, fondement de l'émancipation démocratique, sociale et économique des populations les plus marginalisées en Inde. Aujourd'hui, explique le Guardian, le gouvernement central s'arroge le pouvoir discrétionnaire de décider quand et où le programme de garantie d'emploi rural s'applique. Delhi plafonne aussi les financements et transfère le risque financier aux États indiens. Ils devront assumer 40% des dépenses de la nouvelle loi, rapporte The Indian Express et la BBC. The Wire s'inquiète de voir plonger un peu plus dans la précarité une main-d'œuvre rurale déjà en difficulté. Les femmes en particulier seront contraintes d'accepter les offres reçues sans garantie d'égalité salariale dans le secteur agricole. Inquiétude relayée à l'échelle mondiale par des économistes de renom, Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, signataires d'une lettre ouverte diffusée notamment par The Hindu. Et aujourd'hui, l'État du Karnataka dans le sud du pays se lance dans une bataille juridique, annonce The Deccan Chronicle et The Hindu, pour rétablir cette loi sur la garantie d'emploi rural. Des partisans du retour du texte, des opposants au gouvernement Modi s'élanceront eux dans 2 semaines dans de grandes marches de protestation, indique The Deccan Herald, à partir donc du 26 janvier prochain.
Et en Iran, Catherine, des manifestants sont redescendus dans la rue hier soir, malgré la répression en cours.
Une répression difficile à mesurer puisque le pays est privé d'internet, presque coupé du monde depuis jeudi dernier. Et des vidéos et des informations nous parviennent malgré tout, raconte Iran International, média d'opposition basé à Londres. Quelques minutes de connexion parfois, notamment grâce à des VPN, logiciels de contournement des blocages du réseau, également ciblés par le régime des Mollahs, indique Iran Wire. Des manifestants se sont rassemblés hier soir dans le quartier de Punak, dans le nord-est de Téhéran, explique Iran International, allumant des feux, scandant des slogans anti-gouvernementaux. Certains réclament le retour de Reza Pahlavi, le fils exilé du défunt Shah. Depuis plus de 2 semaines maintenant, des centaines de milliers d'Iraniens et d'Iraniennes réclament le renversement du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Et à mesure que les manifestations s'amplifient, la répression aussi. Comme en attestent les sacs mortuaires sur des images provenant d'une morgue près de Téhéran, au moins 180 morts attestés par la BBC. Quant à l'agence de presse américaine Human Rights Activist News Agency, elle dit avoir vérifié la mort de 495 manifestants à travers le pays. Un bain de sang à huis clos, résume le Guardian, avec des fusils d'assaut, des tirs à bout portant. Donald Trump veut s'entretenir avec Elon Musk pour envoyer Starlink aux manifestants en Iran.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain dans la matinale de Guillaume Erner pour la revue de presse internationale. Et quant à nous, eh bien demain, suite de notre série sur les réparations coloniales, nous parlerons des demandes de la Namibie auprès de l'Allemagne, plus d'un siècle après le génocide des Herero et des Nama. Et dans un instant, les Midi de Culture par Marie Laborie.